Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossuma. Tout de suite, le sommaire. La société civile de Walé Sewankoutou en Ituri sollicite des opérations de grande envergure dans la région du Mont Oyo, bastion des EDF, cela pour faciliter le retour des milliers de déplacés. Ceci est contenu dans une déclaration faite ce samedi à Radio Kapi. Taux élevé de criminalité et de banditisme signalé dans la Tchopo, une œuvre des inciviques et des jeunes désœuvrés, c'est le résultat du monitoring effectué récemment par des activistes des droits de l'homme, appuyés par le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Et puis, l'invité de ce midi, le professeur Kaindo Mouessi, politologue, à l'occasion de la Journée internationale des victimes de crimes de génocide, y propose une forte sensibilisation de la population pour la cohabitation pacifique des communautés et le renforcement du système de défense et de sécurité. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. La société civile de Walé Sewankoutou dans le territoire d'Irumu salue la nomination du général-major Camille Bombélé comme commandant en charge de la coordination des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les ADF en Ituri et au Nord Kivu. Dans une déclaration ce samedi à Radio Kapi, cette structure estime que l'installation de l'état-major de cette mutualisation des forces à Komanda rassure la population meurtrie. Elle demande cependant que les opérations de grande envergure soient rapidement lancées dans la région du Mont Oyo sur l'axe routier Komanda-Luna, considéré comme bastion des rebelles ADF. Ceci pour permettre à des milliers de personnes déplacées de regagner leur village. Dieudonné Malangai, responsable de la société civile de Walé Sewankoutou, joint par Martial Kizabia Mungu.
Nous félicitons cette décision prise par les autorités parce que c'est ce qui était nos recommandations. Dans nos recommandations, on parlait de l'installation, l'état-major doit commander. Nous félicitons cette décision. Pour le moment, nous avons l'espoir là. Nous attendons seulement le lancement des opérations de grande envergure. Là, nous savons que ça doit nous soulager, nous, la population de la chefferie de Walé Sewankoutou. Nous avons l'espoir que la population va regagner leurs milliers d'origine. C'est ce que nous recommandons. Quand il y aura état major aussi installé à Komanda, il faut qu'on installe encore une autre base, surtout au niveau de la chefferie de Walé Sewankoutou à Ofai, et au niveau d'Idou, et au niveau de Bonasura, et Luna, au niveau de la barrière, parce que l'idée c'est qu'on barricade d'abord la route numéro 4 à partir de Komanda jusqu'au Nord Kivu.
Bientôt une année depuis que le politicien congolais Roger Lumbala est détenu à la maison d'arrêt de la santé de Paris en France. Au cours d'un point de presse tenu hier à Kinshasa par sa plateforme, Base de la République qualifie l'arrestation de leur leader d'arbitraire et demande au président de la chambre d'instruction du tribunal judiciaire de Paris de procéder à la désignation de 3 juges qui devront examiner le dossier et la requête de Roger Lumbala, qui pour lui, le dossier est vide. On écoute à ce sujet Serge Kambasungé, coordonnateur national AI de la base de la République, propos recueillis par Richard Junior Kamunga.
L'arrestation de M. Roger Lumbala, presque une année après, exige à la justice française, dont le principe sacro-saint est la présomption d'innocence, d'apporter la preuve de l'existence des militaires du RCDN, comme l'exige le standard de la procédure pénale française. L'absence des éléments de preuve dans le dossier, la justice française a sollicité la coopération judiciaire avec la Cour pénale internationale. Après 2 voyages au siège de la CPI, le bureau du procureur de la CPI a transmis 137 documents pertinents au juge d'instruction français. Le bureau du procureur a transmis tous les documents issus de l'enquête sur les éléments du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 à Mambasa. Il s'est avéré qu'aucun élément de l'enquête du bureau du procureur de la CPI n'a permis d'établir de preuves matérielles irréfutables de l'existence des militaires du RCD-N et de Roger Lumbala par la CPI.
Et puis, une question de confiance politique ne devrait pas se gérer devant les juridictions. Ces propos sont de Wenceslas Boussane, professeur et chercheur en droit à l'Université catholique de Bukavu. Il réagissait ainsi à la décision de la Cour d'appel du Sud Kivu qui a suspendu l'acte de notification de la destitution du gouvernement provincial dans un arrêt rendu le lundi 6 décembre. Le professeur Boussane en appelle surtout à l'arbitrage du président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. En outre, le professeur Boussane préconise également un cadre de dialogue permanent entre les institutions pour éviter des motions de censure à répétition. Il est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Dans la théorie du droit sur laquelle nous faisons des choses tous les jours, la notification est un acte qui ne contient aucune décision. Et il n'y a rien que le juge peut aller vérifier du point de vue de la régularité ou non. Et la saisine du juge dans cette matière-là relève d'une situation surprenante. Maintenant, on est dans une sorte de situation ambivalente. À défaut pour les concernés eux-mêmes qui estiment avoir un droit à revendiquer tout de suite, la prérogative revient actuellement au président de la République. Il est le garant de la Constitution, il est le garant du fonctionnement normal des institutions. Il a la responsabilité de demander à la CENI, parce que la loi prévoit que après les votes d'une motion de censure, dès que la démission est déjà effective, la CENI, dans les 15 jours, doit pouvoir organiser les élections, même si, grâce à l'implication du président de la République, la loi va être appliquée. Je vais quand même en appeler à l'Assemblée provinciale, au gouvernement provincial, en tant qu'humain, avec la dignité qui doit accompagner leurs fonctions, d'avoir des cadres de dialogue permanents pour éviter d'en arriver à cette arme ultime, la motion de censure. Et pour une province comme la nôtre, qui a déjà connu beaucoup de déboires, tout le temps devoir recommencer, c'est décourageant pour les citoyens qui attendent le développement.
Province de la Tchopo, la situation des droits de l'homme est marquée par un taux élevé de criminalité et de banditisme, une œuvre des inciviques et des jeunes désœuvrés. C'est ce qui ressort du rapport de monitoring effectué récemment sur quelques axes routiers de la Tchopo en général et dans la ville de Kisangani en particulier par des activistes de droits de l'homme avec l'appui du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Ce rapport a été remis hier au gouverneur de province par intérim à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Reportage de Jacques Moukonkolé.
Le constat fait par les activistes des droits de l'homme au cours de leur monitoring est accablant, notamment la recrudescence du taux de criminalité et de banditisme, la circulation des armes à feu, la multiplicité des barrières illégales et des taxes, le faible effectif des éléments de la police et le manque de moyens logistiques. Par rapport à cette situation, les activistes des droits de l'homme ont formulé des recommandations, dont quelques-unes sont présentées ici par Maggie Libelele.
Renforcer l'effectif de la PNC dans des postes de sécurité telles que les barrières, docteur Chefri, doter la PNC et la FRDC de tous les moyens logistiques, matériels et financiers pour mieux exercer leurs activités de routine. Revoir l'effectif à la baisse de la PSR dans des carrefours et des barrières.
Tout en saluant ce travail, le gouverneur des provinces, Maurice Abibou Sarapela, exhorte les activistes des droits de l'homme à aider les autorités à sensibiliser la population pour vaincre l'oisiveté, la mère de tous les maux.
Travail qui anoblit l'homme. Et lorsque l'homme a un minimum vital, lorsqu'il parvient à chasser l'angoisse existentielle, il est difficile qu'il puisse se livrer aux voies des faits.
Le gouverneur des provinces a promis d'examiner toutes ces recommandations afin de voir dans quelle mesure y apporter des solutions idoines. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Cap.
Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, les détenus de la prison centrale de Beni ont été informés sur leurs droits. Une sensibilisation menée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Beni, ainsi que leurs partenaires. Des détails avec André Kitenge.
La sensibilisation a commencé par la prison centrale de Kangwai, où des détenus ont été informés sur leurs droits pendant leur détention. Une occasion pour certains détenus d'évoquer les difficultés qu'ils éprouvent, notamment celle du non-respect des droits de l'homme. Pour sa part, le chef de quartier militaire de la prison de Beni Kangwai, représentant du directeur de la prison, a indiqué que cette journée doit être connue de tous, y compris les détenus. Le capitaine Gabriel Amissi.
Cette journée a été souvent beaucoup négligée, surtout des détenus, même les hommes qui sont libres. Mais cette journée, comme a été rappelé par nos partenaires, je remercie ça parce que les détenus sont partisans des droits de l'homme, doivent aussi savoir la journée des droits de l'homme, c'est quelle date.
Bien avant, il a été rappelé aux agents pénitentiaires les droits fondamentaux des détenus en prison. Après, c'était le tour des détenues femmes de bénéficier de cette même sensibilisation et leurs droits spécifiques. Les enfants en conflit avec la loi ont reçu également la même sensibilisation. À la fin, tous les détenus, hommes et femmes, surtout les plus démunis, ont reçu des non-vivres dont de la MONUSCO. Les enfants en conflit avec la loi, quant à eux, ont reçu des vivres constitués du riz, toujours un don de la MONUSCO à travers l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
African Witness for Peace and Justice, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kolwezi, plaide pour l'accélération du processus devant conduire à la promulgation de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Par la même occasion, cette ONG demande aux défenseurs des droits de l'homme de mener leurs activités avec professionnalisme pour éviter d'exposer leur vie. On écoute le directeur exécutif de cette ONG, Albert Ibonga, joint par Jean Gandou.
Nous profitons de la journée mondiale de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour présenter notre plaidoyer par rapport à la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, miscellée depuis très longtemps ici en République démocratique du Congo. À cet effet, nous recommandons au président de la République de pouvoir tenir ses promesses électorales en donnant des instructions claires au gouvernement afin que le projet de loi portant protection des défenseurs des droits humains soit présenté à l'Assemblée pour le vote. Au Parlement, d'accélérer le processus de l'examen du vote de cette proposition de loi afin qu'il soit transmis au président de la République dans un meilleur délai, à la communauté internationale d'exercer les lobbies auprès des gouvernements congolais pour que cette loi soit transmise au Parlement pour son examen, son vote et transférée au président de la République pour sa promulgation. Aux défenseurs des droits de l'homme en particulier, de pouvoir aussi exercer leurs activités avec professionnalisme afin d'éviter des publications qui peuvent exposer leur vie faute de professionnalisme dans l'exercice de leurs activités.
Parlons à présent de cette bonne nouvelle pour les habitants de la province de Lomami. Baisse sensible de prix de la mesurette de maïs sur le marché de Cabinda. Une mesurette de 3,5 kg de maïs qui coûtait la semaine dernière 4 500 francs voire 5 000 francs congolais revient actuellement à 2 500 ou aux 2 300 francs. La fin de la campagne des fourmis ailées ainsi que la sensibilisation des femmes vendeuses de maïs à Cabinda appelées caélistes serait à la base de cette baisse de prix, affirment certains habitants. Explication de Esther.
Une mesurette appelée Meka de 3,5 kg de maïs revient aujourd'hui à 2 500 francs congolais, voire 2 300 francs. Il y a une semaine, la même mesurette s'est vendue à 6 000, 5 000, voire 4 500 francs congolais. Manger à sa faim était devenu difficile dans les familles nombreuses, affirment certaines femmes ménagères. L'administrateur de territoire en charge des questions politiques et administratives attribue cette baisse à la sensibilisation menée par le maire de la ville auprès des femmes vendeuses de maïs à Cabinda appelées caélistes. D'autres sources sur place évoquent la fin de la campagne des fourmis ailées qui avait poussé les agriculteurs à suspendre momentanément l'agriculture. Au cours d'une interview accordée la semaine dernière à Radio Okapi, le président urbain de la Fédération des entreprises du Congo, FECONSIGLE, a indiqué que les premières récoltes effectuées ces jours peuvent aussi contribuer à la diminution des prix de cette denrée alimentaire sur le marché de Cabinda. Jean Kikangala a aussi proposé la réhabilitation des routes pour faciliter le transport de grandes quantités en provenance des centres de production vers le centre de consommation. Esther Ndalafina Mbojemaï, Radio Okapi.
Province du Maniema, signalant la remise officielle depuis jeudi de deux arrêtés portant attribution gratuite et perpétuelle des concessions forestières des communautés locales Niembe et Foura, respectivement des groupements Chambi et Mukoko dans la chefferie de Bangengele en territoire de Kailo. Arrêté signé le 30 novembre dernier par le gouverneur de province par intérim. Cela grâce à l'accompagnement du programme intégré RED plus PIRED Maniema à travers le projet de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts, projet mis en œuvre par la coopération allemande. Explication de Florence Kizalunga.
La cérémonie de remise de ces arrêtés a eu lieu à Lokando devant plusieurs autorités. Pour les chefs de chefferie, ces arrêtés vont contribuer au développement de ces entités. Linganja Atanas.
Nous avons vraiment un sentiment de joie parce que nous avons commencé avec ce processus bien longtemps. Mais aujourd'hui, par rapport à la demande que nous avons faite au gouverneur, il nous a accordé, il vient de signer notre arrêté. Vraiment, nous avons un sentiment de joie. Vraiment, ça va contribuer au développement de notre entité parce qu'à travers ces arrêtés, nous allons maintenant commencer à gérer notre forêt d'une manière
manière rationnelle.
De son côté, le coordonnateur provincial de l'environnement et développement durable exhorte les bénéficiaires à une utilisation rationnelle de ces concessions. Vincent Josué Beloko.
On a connu beaucoup de problèmes par-ci par-là. Les gens qui voulaient des bénéfices personnels, qui se permettaient de vendre à leurs propres bénéfices. Mais maintenant là, qu'ils ont des arrêtés signés par son excellence, monsieur le gouverneur, ils doivent utiliser cela pour le besoin de la communauté. Il n'y a plus de problèmes individuels des chefs de groupement, des chefs de village ou d'un individu quelconque.
Signalons que la concession de Niembe a une superficie de 31 158 hectares et celle de Mukoko à 6 283 hectares. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Alors que l'UNICEF fête ses 75 ans d'existence, l'organisation onusienne alerte sur la situation à laquelle les enfants font face dans le monde. Le Covid-19, allié au changement climatique et à la montée des violences dans de nombreuses zones, risque de faire reculer les droits des enfants dans de nombreux pays. Le 5 décembre, l'UNICEF a lancé un appel de fonds d'urgence de 9,4 milliards de dollars pour apporter une aide humanitaire à plus de 177 millions d'enfants. Depuis 2 ans, l'organisation remarque des nets reculs sur les droits de l'enfant partout dans le monde à cause du Covid-19 et s'alarme. Selon son rapport, évitant une décennie perdue, 100 millions d'enfants supplémentaires ont déjà plongé dans la pauvreté à cause des conséquences de la pandémie.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. Il faut une forte sensibilisation de la population pour la cohabitation pacifique des communautés et le renforcement du système de défense et de sécurité. C'est ce que propose le professeur Kaindo Mouissi, politologue, pour prévenir des génocides et crimes graves dans la partie est du pays. Proposition faite à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des victimes de crimes de génocide. Invité de ce journal, le professeur Kaindo Mouissi répond aux questions de Grace Amzati.
Professeur Kaindo Mouissi, bonjour.
Bonjour.
C'est 9 décembre, le monde célèbre la journée des commémorations des victimes des crimes de génocide, d'affirmation de leur dignité et de prévention. Quel sens vous accordez à une telle journée?
Oui, le sens de cette journée est à situer dans le contexte justement de la lutte contre, n'est-ce pas, les génocides, qui est grand fléau auquel le monde entier est confronté. Et il s'agit, autrement dit, de donc faire une large sensibilisation de la communauté internationale, des communautés nationales également, sur la nécessité de mettre en œuvre la Convention sur les génocides, qui est en fait un cadre de protection des populations civiles contre les génocides, mais aussi une façon de rappeler à la communauté internationale et à tous les États la nécessité, n'est-ce pas, de protéger les populations civiles contre les menaces du génocide qui sont récurrentes à l'échelle mondiale dans différentes régions de la planète.
En un mot, c'est quoi un génocide?
Un génocide, c'est en fait un acte visant à vouloir, n'est-ce pas, supprimer toute une communauté, tout un groupe. Et cela se caractérise effectivement par les atteintes à l'intégrité physique et morale et même la création de conditions susceptibles en fait de supprimer l'existence à un groupe humain.
Quel rapport peut-on établir entre cette journée et ce qui se passe dans la région de Beni et de l'Ituri?
En fait, ce qui se passe dans la région ici a des ressemblances avec un peu les génocides, même si il appartient au juge de pouvoir qualifier, n'est-ce pas, une infraction de génocide. Mais si l'on regarde ce qui se passe, on a comme l'impression qu'il y aurait, n'est-ce pas, des actions allant dans le sens de pouvoir supprimer des communautés entières. Même si, évidemment, on n'est pas encore arrivé à prouver que effectivement les tueurs ont pour objectif de supprimer, n'est-ce pas, des groupes ethniques bien ciblés, et on n'a pas encore prouvé effectivement que ceux qui sont tués sont des mêmes groupes ethniques. Mais ce qui est vrai, il y a des manifestations de la discrimination dans la région qui sont aussi des facteurs importants, n'est-ce pas, du génocide. Il y a la question identitaire qui est aussi suffisamment avancée dans la région. On n'a pas suffisamment fait d'enquête pour pouvoir établir des faits probants, des faits cohérents et documenter suffisamment ce qui se passe pour que effectivement cela puisse aider, n'est-ce pas, le juge, que ce soit au niveau interne ou au niveau de la Cour pénale internationale, de pouvoir aller dans le sens de qualifier ce qui se passe de génocide dans la région.
On parle aussi de l'affirmation de la dignité des victimes des crimes de génocide. De quelle manière peut-on affirmer la dignité des victimes des crimes?
Justement, l'affirmation de la dignité des victimes passerait par, n'est-ce pas, une réparation ou des efforts visant la réparation des dommages que les victimes ont subis. Et là, ça requiert en fait l'intervention des cours et tribunaux, l'intervention donc de la justice nationale, mais aussi de la justice internationale. De ce côté-là, on a comme l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts par rapport à ce qui se passe dans la région. C'est vrai, on a eu une cour militaire opérationnelle qui a fait son travail, qui s'est intéressée à des collaborateurs des ADF ou à des collaborateurs du groupe armé qui commettent des actions qui seraient comparables, n'est-ce pas, à des crimes de génocide dans la région. Mais l'impression qui se dégage, c'est que ça a été une volonté, à mon avis, éphémère, parce que pour le moment, il y a les tribunaux militaires qui ont certainement arrêté beaucoup de présumés auteurs des actes qui s'apparenteraient aux actes de génocide, mais il n'y a pas encore suffisamment de procès organisés quant à ça.
Alors, que faire pour prévenir ou alors pour lutter contre le génocide, professeur?
Pour prévenir le génocide, il faut d'abord identifier les causes qui pourraient être à la base des actions de génocide. Et le plus souvent, il s'agit ici des questions identitaires, de la discrimination, des questions liées à l'accès des ressources ou au pouvoir. Après avoir compris ce qui pourrait être à la base de ces situations dans notre région, le premier effort que le gouvernement doit faire, parce qu'il lui appartient de lutter contre le génocide, il faut pouvoir renforcer ce système de défense et de sécurité. Mais en même temps, il faut une large sensibilisation de la population à la cohabitation pacifique, mais aussi créer les mécanismes de la répartition des ressources, de la répartition du pouvoir, pour que les inégalités qui pourraient être à la base de stigmatisation qui conduisent, n'est-ce pas, à des actions de génocide, ne puissent pas primer sur, n'est-ce pas, la paix sociale, la cohésion sociale.
Professeur Kaindo Mouessi, je vous remercie.
Merci.
Notre invité répondait aux questions de Grâce Hamzati. C'est la fin de ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba, la mise en onde Mimi Kindou et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci de nous avoir suivis.